La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre semaine consacrée à la comtesse de Ségur dans la compagnie des auteurs. Une semaine commencée comme de coutume par un panorama biographique. C'était lundi dernier avec Marie Desplechin qui nous a raconté la naissance en Russie de celle qui s'appelait encore Sophie Rostopchine, son parrain, le tsar, son père premier ministre puis gouverneur de Moscou, le départ pour la France et la vocation tardive à 55 ans qui a fait d'elle une des écrivaines majeures du 19e siècle. Mardi, nous étions en compagnie de Maïalène Berasategui qui nous en a dit plus sur la manière dont la comtesse envisageait son statut d'auteur. Elle nous a également parlé de ses convictions politiques. Enfin, hier, je recevais Isabelle Nière-Chevrel pour parler des illustrations des livres de la comtesse, ainsi que de la place des étrangers dans ses œuvres. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, plaisir et perversion au menu de cette émission. En deuxième partie, je recevrai Romain Slocum qui s'est inspiré du roman Les petites filles modèles pour publier chez Belfond un livre qui a presque le même nom, Des petites filles modèles, mais dans lequel l'érotisme ne se contente pas d'affleurer. Et puis en première partie, c'est Des plaisirs du ventre dont je m'apprête à m'entretenir avec Marie-Joséphine Strich, docteur en littérature et auteur de La cuisine modèle de la comtesse de Ségur. C'est publié chez Bartilla, un livre constitué à partir des multiples indications culinaires qu'a laissé la comtesse dans ses livres, livres dont Michel Tournier disait d'ailleurs qu'ils avaient, en plus du reste, une vertu documentaire.
Pour moi, c'est un monde, la comtesse de Ségur, avec les châteaux, le général d'Urakine, les domestiques. Là, les domestiques, voilà une chose qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, mais il y avait le monde des domestiques qui était très important. Pour Bouille de Zola, c'est le roman des domestiques. Et puis, alors, toujours des relents de vieille Russie qui arrivent. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il y a un traîneau avec des chiens et des loups derrière, n'est-ce pas ? C'est une espèce de réminiscence qui surgit en pleine Normandie.
Bonjour Marie-Joséphine Strich.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je vous en prie, vous avez beaucoup écrit sur la comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur et Lewis Carroll, c'était chez Didier en 1995. La comtesse de Ségur, une femme dans l'Ouest,
oui,
chez Perrin en 2000.
C'est
amusant ?
Oui, c'est amusant de penser que l'Ouest a toujours eu sur elle une grande attraction, puisque venue de Russie, elle vient vivre à Paris, puis finalement va célébrer la Normandie et la Bretagne dans ses romans, et elle va reposer pour l'éternité en Bretagne.
Elle s'arrêtait là,
elle s'arrêtait là, non. Mais elle avait quand même des visions sur l'Amérique. Elle y envoie certains de ses héros.
Sur les pas de la comtesse de Ségur, le voyage de Louis Gaston Ségur chez Gallimard en 2005.
Oui.
Et tout cela, visiblement, vous a mis en appétit, puisque l'année suivante, en 2006, vous avez publié La cuisine modèle de la comtesse de Ségur.
Oui.
C'est pas fini, hein, il y a encore d'autres livres sur la comtesse. Vous êtes une graphomane à son sujet.
C'est vrai, je l'aime beaucoup. Il y a énormément à dire, à commenter de sa vie, de ses œuvres, de son caractère. Mais cet ouvrage est un essai de mœurs sur le 19e siècle, joliment présenté par l'éditeur, dans un format qui rappelle celui des romans Hachette, hein, publié donc dès le 1856-57.
Avec une belle couverture
avec
rouge.
Avec une belle couverture rouge qui donne envie de l'ouvrir, d'aller plus avant. Et vous avez tous le souvenir que dans les romans de la comtesse de Ségur, on passe beaucoup de temps à goûter, à avoir des collations, des dîners, des fêtes, des goûters sans fin, des pique-niques. Et donc, amusée par cette idée, j'ai eu le désir de relever tous les plats cités, toutes les boissons citées, et puis à partir de là, de construire cet essai de mœurs.
Donc Michel Tournier, dans l'archive qu'on vient d'entendre, disait qu'elle documentait beaucoup ses œuvres. Est-ce que vous l'avez constaté en ce
qui Oui, bien sûr, oui, ça, tout le monde sait bien que la comtesse de Ségur donnait des indications très réalistes. Hein. On peut avoir le salaire d'un ouvrier de l'époque, le salaire d'une bonne. Tout est très clairement indiqué et parfois des historiens s'appuient sur ces romans pour étayer leur démonstration d'une manière souriante. Parce qu'il est toujours, on constate toujours que la comtesse de Ségur fait sourire et je trouve que c'est une bonne chose.
Pourquoi ?
Non, parce que la comtesse de Ségur, c'est un monde délicieux. C'est vrai, c'est un monde délicieux, mais c'est aussi un monde réel. Les enfants meurent, les animaux meurent, les adultes ont des accidents. C'est un monde réel, réaliste.
Et donc, vous avez été chercher à la fois dans les livres de la comtesse de Ségur, mais aussi un peu dans la paralittérature, pour trouver... Alors, quoi exactement ?
Alors, à partir de ces placités, justement, j'ai fait un petit peu d'archéologie culinaire. À partir des titres des plats donnés, eh bien, j'ai regardé d'anciens ouvrages de cuisine, j'ai retrouvé des recettes. Elles ont été allégées parce qu'à l'époque, on mettait volontiers 500 grammes de truffes ou beaucoup de crème fraîche.
Mais vous les avez réalisées ?
Elles ont été réalisées. Ah oui, elles ont été réalisées, mais d'une manière plus allégée, plus moderne.
Et il ne faut pas moderniser ces choses-là pour avoir le goût quand même,
bien
le
sûr,
vrai goût.
Mais quand même, si j'annonçais 800 grammes de truffes, je crois que j'aurais un courrier des lecteurs assez virulent. Enfin, cela étant, je me suis aussi documentée dans sa correspondance. Parce qu'elle écrit à ses filles, et là, elle explique tous les problèmes qu'elle a quand elle reçoit aux nouettes. En été, la table est très ouverte.
Hein, maison de Normandie.
Sa maison de Normandie, qui deviendra le Fleurville romanesque de la trilogie fameuse des Malheurs de Sophie, des Petites filles modèles et des Vacances. Et là, elle reçoit pleinement ses gendres, cousins, amis, Louis Veuillot, ami de la famille, ou bien Charles Gounod, qui était un ami de son fils aîné, Louis Gaston. Et elle reçoit, elle a des difficultés, elle a parfois un garçon de cuisine qui est un peu emplâtre, selon son expression. Elle a aussi des problèmes, les chiens qui vont lécher des fonds de sauce dans des casseroles de cuivre et qui meurent empoisonnés.
Donc on va parler de tout ça dans la première partie de cette émission, mais peut-être qu'il faut le dire d'abord que chez Sophie de Ségur, la gourmandise, c'est un penchant naturel.
Oui, chez elle... On a cette propension à unir nourriture et émotion. Et ce n'est pas seulement juste le plaisir de la goinfrerie, c'est l'union de l'émotion, de la grande émotion et de la nourriture. Il suffit de revenir dans sa biographie, qui a été évoquée donc il y a quelques jours, lorsque Fiodor Rostopchine, son père, gouverneur de Moscou, est condamné à l'exil par le tsar qui désavoue totalement l'incendie de Moscou qui a été organisé par Rostopchine, eh bien Rostopchine ne va pas partir en exil, il va prendre le prétexte aussi élégant que diplomatique de prendre les eaux. Il va quitter la Russie, quitter sa femme, ses 8 enfants, et il va partir seul à cheval avec son fidèle domestique Robert. Eh bien au moment de quitter sa famille, les enfants sont alignés en rang d'oignon et le père, Fiodor Rostopchine, va les embrasser un à un, en les prenant vraiment dans les bras, au sens propre du verbe embrasser. La petite Sophie ne peut pas embrasser son père. Catastrophe. Pourquoi ? La grande émotion du départ de son père, eh bien, ne sera pas couronnée par une embrassade et une accolade, puisqu'elle cache ses bras derrière son dos, car elle a enfilé sur ses petits poignets potelés, j'imagine, des gimblettes. Et les gimblettes, ce sont des petits biscuits russes en forme de bracelet. Choc et des émotions du départ du père, impossibilité de vraiment le saluer comme il se doit à cause de la nourriture. Souvenons-nous aussi.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la nourriture.
Elle avait sans doute mis ses petites gimblettes en prévision de l'émotion qu'elle allait ressentir au départ de son père, et puis là, la nourriture l'empêche de le saluer. Autre inscription romanesque dans Le Général d'Ourakine. Lorsque le général d'Ourakine quitte la Russie pour aller prendre les eaux à Bagnoles de l'Orne, eh bien, il est dans sa voiture à cheval avec le fidèle Moutier. On va passer la frontière, et là l'illustration est très très belle. On voit de l'intérieur du fiacre un petit panneau Russie, et Russie dans le dos. Eh bien, Rostopchine est quand même ému et se dit « Oh, voilà un grand moment d'émotion, mangeons !» Et il se saisit d'un poulet qu'il dévore à grandes dents.
Oui, il était étonnant ce Rostopchine quand même.
Très sympathique.
Alors il faut dire que à Voronovo, où donc la comtesse de Ségur, qui n'est pas encore la comtesse de Ségur, passe son enfance, on consomme 300 livres de viande par an, rien que pour confectionner
par
les sauces. Ah, par mois.
Ah oui, ce sont des chiffres absolument gargantuesques. La propriété de Voronovo s'étend sur 45 000 hectares. Et parfois, les éditeurs me disent, mais non, écoutez, malheureusement.
C'est une erreur, mais en fait.
C'est une erreur. Eh bien, non, c'est bien 45 000 hectares, c'est-à-dire l'étendue d'un canton. Il faut dire aussi que la famille Rostopchine, donc, avait une sorte de, pas un empire, mais enfin, il y avait des villages, un hôpital, un clergé. Et donc, l'immense château de Voronovo, qui est une belle villa palladienne, eh bien, recevait la parentèle vraiment très large, au sens large. Et donc, il fallait nourrir tous ces invités, bien les nourrir. Et dans les cuisines, on s'affairait.
Et à la fois, il y a un rapport à la nourriture qui est assez ambigu à Voronovo durant l'enfance de la comtesse, puisqu'il est, par exemple, interdit de manger et de boire entre les repas. Donc, c'est pas que du plaisir, la nourriture, c'est aussi le contraire.
Oui, la mère de Sophie Rostopchine, la comtesse Catherine Rostopchine, était une femme très travaillée par des questions spirituelles, théologiques. Elle était très âprement spartiate, je dirais. Et effectivement, ce n'est pas la fortune des Rostopchine qui pouvait l'empêcher de mener les enfants de manière fort diététique, je dirais. Pas de grignotage entre les repas, c'est ce que l'on entend actuellement. Mais boire, évidemment, c'est un petit peu plus sévère.
À tel point que Sophie va aller boire dans l'écuelle du chien.
Eh oui, elle a si soif qu'elle va boire l'eau du chien et va retrouver tous ses souvenirs mêlés dans les malheurs de Sophie, hein, bien sûr.
Oui. Vous diriez d'ailleurs justement qu'elle ressemble à son personnage en ce qui concerne la nourriture, à Sophie Dréan dans les malheurs de Sophie.
Oui, Sophie Dréan, elle a toujours envie, elle voit de la crème, elle y plonge le doigt, les beaux fruits rouges l'attendent en permanence. Et elle va connaître la grande frayeur du loup. Alors là, tout à l'heure, Michel Tournier s'étonnait de voir des retours de Russie dans la calme Normandie. C'est tout à fait normal, hein, me semble-t-il. Sophie est russe, avant tout. Et dans le chapitre des loups, eh bien, la petite Sophie s'attarde à ramasser des fraises des bois. Voilà, et elle va être attaquée par un loup.
La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la comtesse de Ségur avec Marie-Josée Strich. On quitte la Russie, Marie-Josée Strich, pour arriver justement au domaine des nouettes, la Normandie, où elle s'est plu pendant des décennies. On trouve une orangerie.
On trouve une orangerie.
Au rez-de-chaussée.
C'est une jolie propriété qui a été achetée en 1820 grâce aux étrennes généreuses de Fiodor Rostopchine, au jeune ménage Sophie Rostopchine, Eugène de Ségur.
Et là, elle va mener son petit monde domestique. Alors, c'est un moins grand train quand même qu'en Russie. Mais
oui,
tout de même,
puis elle est heureuse aussi d'être dans la nature. C'est une femme qui aime la nature. Elle va retrouver une sorte de mini Voronovo. Hein, c'est beaucoup plus petit. Néanmoins, dans une très jolie lettre de Fiodor Rostopchine au prince Voronzov, Fiodor salue cet achat et dit « Ma fille Sophie est ravie de retrouver une certaine nature et en particulier un bois de bouleau » qui, on le sait, est un arbre tout à fait russe. Alors, elle va même tenter des innovations agricoles. Hein. Elle essaye
avec plus ou moins de succès, d'ailleurs.
De succès. Mais oui, elle est toujours audacieuse. Elle a toujours envie d'avancer, de découvrir et de mettre en réalisation ses idées.
Donc, elle fait, à la manière russe, les foins.
Alors elle fait les foins à la manière russe. Elle fait un regain. Non, ça ne marche pas. Et c'est un échec total, les paysans rigolent et Sophie est très vexée, elle s'en exprime dans une lettre à sa fille, elle est désespérée. Une autre fois, une autre innovation à la fois culinaire et gastronomique, c'est la salade de coucou. Il n'y a pas de salade au potager, et bien elle dit à sa fille, qu'importe, faisons une salade de coucou. Olga, la dernière fille née en 1835, était enchantée de cette bonne petite salade.
Alors, la table aux nouettes, c'est quand même une table gastronomique, et ça, elle y tient.
elle y tient. C'est une table gastronomique avec les produits locaux. Souvenez-vous, chers auditeurs, si vous avez encore en tête les menus qui sont cités dans l'auberge de l'Ange Gardien, on voit que ce sont vraiment des plats normands. On y boit du cidre, on y mange des légumes tout à fait normands, pas d'exotisme. Hein.
Du radis au beurre.
Du radis au beurre, bravo. Oui, oui, c'est très simple. Finalement, c'est très très simple.
Des croquettes de Lapro, c'est peut-être un peu plus dur.
C'est un petit peu plus difficile, c'est vrai.
Vous l'avez fait
Oui, ça a été fait, ouais. Ça a été exécuté. Et dégusté, et apprécié.
Matelote à la Kléber.
Oui, poisson.
Côtelette sur purée de pois, tarte aux cerises,
oui,
camembert.
Oui, les tartes aux cerises. Alors là, on retrouve bien sûr tout l'attrait de la comtesse de Ségur pour les fruits rouges. Hein. Ça, combien de scènes sont liées à ces fruits si brillants, si dodus, si appétissants.
Les cerises, par exemple.
Les cerises, les fraises des bois. Tout cela est très présent. Le cassis, également. Chez la comtesse de Ségur. Alors, je disais tout à l'heure qu'elle avait des problèmes, pas des problèmes, mais des questions d'intendance. Elle avait parfois un domestique un peu en plâtre, qui ne savait pas bien nettoyer les casseroles, qui, mal nettoyait, ensuite empoisonnait les chiens. On en trouve un écho dans sa correspondance, toujours très vivante. Elle se plaint aussi d'un domestique qui a mal bassiné les lits avec le moine, mais le moine n'est pas un moine vivant, bien sûr. C'est une sorte de grande chaufferette avec laquelle on bassine les livres. Et il se trouve qu'un jour, figurez-vous, un mendiant arrive aux Nouettes. On le fait entrer, on le restaure, et on lui propose de dormir aux Nouettes. Bien. Et un des domestiques qui était chargé de bassiner avec le moine les lits a fait passer le moine d'un lit à l'autre. Alors, elle s'en amuse dans une lettre très, très vive également. Elle est pleine d'observations sur toute cette vie quotidienne.
Donc ça, c'est aux Nouettes.
Ça, c'est aux Nouettes.
Marie-Josée Strich, mais il y a aussi Paris, parce que
elle vit en hiver à
entre
Paris.
Les deux villes, enfin, entre Paris et la campagne.
Paris et la campagne. Elle mettait à l'époque près de 9 heures pour rallier Aube, un petit village après l'Aigle, dans la campagne. Et cette propriété des Nouettes va devenir le Fleurville romanesque. Donc quand elle va écrire, elle va s'inspirer de ce qu'elle connaît. Que connaît-elle ? Eh bien, la vie en Russie et la vie à la campagne, la vie des Nouettes. C'est ainsi que Fleurville est née.
Il y a ici beaucoup de vautours qui pourraient l'enlever. Il faut donc attendre qu'il soit grand pour le laisser en liberté, dit Madame de Réan. Mais Sophie, qui n'était pas obéissante, continuait de le faire sortir en cachette de sa maman. Et un jour, sachant sa maman occupée à écrire, elle apporta le poulet devant la maison. Il s'amusait à chercher des moucherons et des vers dans le sable et dans l'herbe. Sophie peignait sa poupée à quelques pas du poulet qu'elle regardait souvent pour l'empêcher de s'éloigner. En levant les yeux, elle vit avec surprise un gros oiseau, au bec crochu, qui s'était posé à 3 pas du poulet. Il regardait le poulet d'un air féroce et Sophie d'un air craintif. Le poulet ne bougeait pas. Il s'était accroupi et il tremblait. « Quel drôle d'oiseau !» dit Sophie. « Il est beau, mais quel air singulier il a ! Quand il me regarde, il a l'air d'avoir peur, et quand il regarde le poulet, il lui fait des yeux furieux. Qu'il est drôle !» Au même instant, l'oiseau pousse un cri perçant et sauvage, s'élance sur le poulet qui répond par un cri plaintif, le saisit dans ses griffes et l'emporte en s'envolant à tire-d'aile. Sophie resta stupéfaite. La maman, qui était accourue au cri de l'oiseau, demanda à Sophie ce qui était arrivé. Sophie raconte qu'un oiseau a emporté le poulet et ne comprend pas ce que cela veut dire. Cela veut dire que vous êtes une petite désobéissante, que l'oiseau est un vautour, que vous lui avez laissé emporter mon beau poulet qui est tué, dévoré par ce méchant oiseau, et que vous allez rentrer dans votre chambre où vous dînerez et où vous resterez jusqu'à ce soir pour vous apprendre à être plus obéissante une autre fois. Sophie baissa la tête et s'en alla tristement dans sa chambre. Elle dîna avec la soupe et le plat de viande que lui apporta sa bonne, qui l'aimait et qui pleurait de l'avoir pleuré. Sophie pleurait son pauvre poulet, qu'elle regretta bien longtemps.
Un extrait des malheurs de Sophie, par Sylvie Joly, extrait qui lie le thème de la désobéissance avec celui de la nourriture, Marie-Joséphine Strich, puisque le poulet est dévoré
oui.
par un vautour et que Sophie, elle mangera seule dans sa chambre, elle est punie. Est-ce que vous diriez que le thème de la nourriture, il peut être aussi lié chez la comtesse de Ségur au thème soit de la culpabilité, soit de la punition?
Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Aux grandes émotions, comme je disais tout à l'heure, et à la punition, si l'on veut, à la réprimande musclée. Songeons au chapitre du cabinet noir, quand Sophie, justement, à cause des cerises renversées, eh bien, a été punie d'une manière très sévère. Hein. Au cabinet noir, pain et eau. Ah là, c'est la nourriture, mais spartiate.
Parce que la nourriture, ça peut être aussi, au contraire, une philosophie du bonheur.
C'est vrai, et la nourriture à Fleurville ou aux Nouettes, c'est la gastronomie du bonheur quand on reçoit ses petits-enfants. Et dans toutes ses lettres à ses petits-enfants, elle leur explique « Quand vous serez arrivés aux Nouettes, vous pourrez chasser, nous préparerons votre gibier, je vous préparerai tout ce que vous aimez. » Alors là, c'est bien sûr le bonheur immobile des Nouettes avec cette gastronomie du bonheur.
Si Dieu fait, la nourriture refait.
Oui. Bel adage. Pourquoi pas, la nourriture restaure, justement. C'est ça le vrai sens de restaurer.
Alors vous parlez dans votre livre Marie-Joséphine Strich du théâtre de la gourmandise chez la comtesse de Ségur, et c'est vrai que la Normandie en particulier, c'est un réel théâtre des opérations.
Le théâtre des opérations, la Normandie, ce bonheur immobile qui voit les vacances des enfants puis des petits-enfants de la comtesse de Ségur, et c'est un moment tout à fait privilégié dont rêve aussi bien Sophie de Ségur que ses enfants et petits-enfants au moment où ils sont encore en classe à Paris.
Alors le théâtre, ce n'est pas forcément que les Nouettes, ça peut être aussi, vous l'évoquiez, l'auberge de l'Ange Gardien.
L'auberge de l'Ange Gardien.
Et la nature aussi.
Bien sûr. Et la nature, oui, les pique-niques
sont
nombreux.
Ah, les pique-niques. Alors,
là aussi, peut-être nourriture et grande émotion. Souvenez-vous de ce pique-nique magnifique avec tous les cousins, les oncles et les tantes qui sont très jeunes. D'idées et de comportements. Et après un bon pique-nique délicieux, eh bien, on va connaître un moment de grande frayeur, puisque Sophie, la terrible Sophie, va, pour se cacher d'une manière plus extraordinaire que tous les autres, se glisser dans un arbre creux. Et elle va risquer d'y mourir étouffée. Alors là aussi, tout le plaisir de cette belle escapade dans la nature est gommé par le grand danger de mort dans lequel elle va se trouver, et l'arbre va parler. On se dit, mon Dieu, mais qui parle? C'est Sophie dans l'arbre. Une scène terrible, une sorte de mise en abîme de danger, une scène magnifique que j'aime beaucoup.
Elle est mangée par l'arbre.
Elle est mangée par l'arbre. Terrible, belle
ça,
scène.
Ça vous fait penser à des tableaux, Marie-Josée Strich?
Oui, bien sûr. Alors, peut-être pour les fruits rouges, bien sûr, les tentations, Jérôme Bosch, hein, ça c'est certain. Sinon, pour les arbres qui parlent, je pense aussi aux littérateurs romantiques allemands, pour qui la forêt est très très importante. Et la forêt peut être un lieu délicieux, mais aussi un lieu de grand danger et un lieu de dramaturgie romanesque intense. C'est bien dans la forêt que on va retrouver le père La Frégate, et c'est par son intermédiaire que l'on va retrouver le mari de Madame de Rosbourg. Donc c'est quand même un lieu intense.
Alors il y a la forêt, puis il y a Paris, où là le danger est moindre d'être avalé par un arbre.
Oui, alors là on peut être éclaboussé par les fiacres, elle s'en plaint. La petite fille, dans Les Bons Enfants, une des petites filles se plaint de la vie à Paris. Ah, que ne vivais-je pas seulement en Normandie, à la campagne. Et un roman de la comtesse de Ségur met en scène deux enfants, les deux Nigaud, hein, qui sont innocents et Simplicie Gargilier, qui ne rêvent que de Paris, et qui vont quitter leur campagne pour venir connaître les embarras de Paris. Mmh. Amusant roman.
À Paris, on se tient bien à table, aux Nouettes aussi sans doute, mais
oui.
À Paris peut-être encore davantage, la comtesse de Ségur était
codifié.
Très à cheval sur effectivement les codes.
Oui, c'est certain. Elle avait un jour de réception, le mardi me semble-t-il, Alors on s'amuse à voir que justement le jour où elle recevait, c'était le soir où Eugène de Ségur, son mari, avait des réunions pour ses chemins de fer de l'Est. Bon, enfin moi je constate cela. Que dire encore de la vie à Paris ? Elle souffre à Paris, hein. Elle est quand même pleinement heureuse à la campagne. Et vers la fin de sa vie, elle sera de moins en moins présente à Paris et elle voyagera, elle sera itinérante dans toute la France, voyant ses filles tantôt en Bretagne, tantôt dans le sud, du côté de Toulouse.
Mmh. On peut dire que les dîners ont lieu à 7 heures ?
Oui.
Et non pas à 5 heures ou 6 heures ?
C'est vrai, oui, oui. Les codes d'alors sont différents des nôtres. Une petite notation amusante, jusqu'au début du XXe siècle, le fromage était un apanage masculin. C'est trop puissant pour les palais féminins.
Ah, c'était interdit même pour les femmes.
Interdit, mais c'était plutôt masculin. Et donc, pendant que les hommes dégustaient leur fromage odorant, eh bien, les femmes grignotaient d'un air tout à fait charmé. Un petit biscuit. Voilà. La comtesse de Ségur appréciait les vins. Alors, savez-vous quel est son le vin qu'elle apprécie le plus ?
Bordeaux Lafitte.
Oui, le Bordeaux Lafitte. Et puis, un cru particulier, le côte rôti,
ah oui,
qu'elle faisait venir en barrique à Paris.
Mais justement, alors, est-ce qu'elle faisait elle-même les courses ? Parce que, j'imagine qu'elle ne le faisait pas elle-même, mais est-ce qu'elle se promenait, par exemple, du côté des Halles qui sont en construction à ce moment-là ?
Elle se promène dans Paris.
Pendant le Second Empire.
Elle se balade dans Paris. Et pour écrire ses Denigo, certainement, elle est allée s'inspirer sur le terrain. Oui, oui, oui. Les Denigo, c'est vraiment le roman parisien.
Et puis les marchés, le marché Saint-Germain.
Le marché Saint-Germain, elle va beaucoup acheter de la mercerie. On a des tas de détails, hein. Il y a toute une documentation, des notes de Mercier pour des boutons. Tout ça dans la rue du Bac. C'est vraiment le quartier de la rue du Bac.
Alors j'aimerais, pour terminer cette première partie d'émission, vous faire commenter le menu du jeudi au 91 rue de Grenelle, où on pouvait déguster ce soir-là, je ne sais pas quel soir, un soir de réception.
Oui, un soir d'anniversaire peut-être.
Alors, potage aux pâtes d'Italie, puis rouget en caisse, puis bœuf braisé, garni de pommes de terre frites, poularde vallée d'Auge ou à l'estragon, ensuite choux de Bruxelles sauté et pommes au beurre. Ça, c'est un menu classique et normal chez la comtesse de Ségur.
Terrible, hein, à l'image de tous ces menus du 19e siècle. Alors, il faut savoir que on ne mangeait pas une grande quantité de chaque plat. Et si j'ai encore une minute,
oui,
je dirais que jusque dans les années 1830, eh bien, le service était fait à la russe.
Exactement.
Et ça, c'est important.
Alors, expliquez peut-être la différence
jusqu'en 1830,
entre le service russe, oui, et le service français.
Jusqu'en 1830, le service était fait à la française, c'est-à-dire que tout était sur la table, sous des cloches d'orfèvrerie.
C'est le banquet, un peu.
C'est le banquet. Et cela explique la grande production d'orfèvrerie française pour toutes ces cloches pour protéger du froid qui arrive sur les plats. Mais à partir de 1830, mettons, l'ambassadeur en poste à Paris, un certain Kourakine, pas d'Ourakine, Kourakine, en a eu assez de cela et il a imposé le service à la russe, c'est-à-dire les plats qui se succèdent.
Eh oui. Convier quelqu'un à dîner, c'est se charger de son bonheur pendant tout le temps qu'il est sous votre toit, disait Bria Savarin. Et on imagine que la comtesse de Ségur ne pouvait qu'approuver
Bravo.
À cet axiome.
J'adhère.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
En compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Clara Royer, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors vous êtes déjà venue nous voir pour nous parler d'Imre Kertész, dont vous êtes la première biographe depuis la parution de votre livre chez Actes Sud en 2017, L'histoire de mes morts. Et c'est de Kertész aussi dont vous venez nous parler aujourd'hui, mais cette fois au nom de la revue Ligne de Risque, qui consacre son numéro 53 au grand écrivain hongrois.
Oui, le numéro Kertész de la revue Ligne, c'est la réunion d'historiens, de philosophes, de psychanalystes et d'historiens littéraires venus de France, de Hongrie, d'Allemagne et même des États-Unis. que nous avions pour partie sollicité lorsque nous avions organisé un tout premier colloque en France entièrement consacré à Aimé Cartès avec Catherine Cocchio et Lucie Campos au Collège de France et à l'École Normale Supérieure. C'est un numéro qui s'ouvre sur une note de deuil parce qu'Aimé Cartès est mort le 31 mars 2016 alors que nous achevions de le composer. À travers la voix de l'écrivain Peter Esterhazy, que la maladie emportait à son tour le 14 juillet 2016. Souffrance, inquiétude, silence, ce sont les trois mots tressés par Esterhazy dans ce texte qu'il avait prononcé le 22 avril 2016 à l'occasion de l'enterrement d'Imre Kertész pour évoquer l'écrivain et le témoin qui était son ami. Mais nous avons voulu faire la part belle à l'irrésistible allégresse du pessimiste dont parle Catherine Cocchio dans son article, à cet humour d'échafaud dont il défendait la nécessité dans l'art, comme il me le disait dans un entretien que ce numéro abrite. Cet humour pointe vers une éthique de la création qui fonde chez Cartès une écriture existentielle qu'il a voulu assumer en réponse au monde dans lequel il vivait. C'est cette poétique avec un H pour citer le beau terme de Philippe Darros qui consacre un texte au verbe « comprendre » chez Cartès qui a été le fil rouge de ce volume. Pour cet écrivain hongrois qui déportait à 14 ans à Auschwitz puis à Buchenwald et qui s'est retrouvé gardien de prison sous le régime stalinien connu par la Hongrie, il ne pouvait y avoir d'écriture qu'existentielle. Et c'est ce qu'explique notre collègue hongrois Chara Molnár dans un très bel article sur la découverte existentielle de soi. Ces deux expériences, communiste et nazie, dont Luba Jorgensen montre le lien profond, puisque la société communiste a fait comprendre aux survivants qu'ils n'étaient pas libérés, ont poussé Cartès à écrire à l'horizon d'une littérature mondiale, où la condition juive sert davantage de symbole que d'identité. Et c'est ce rapport ambigu auquel se consacre Suzanne Suleiman dans son propre article.
Et puis alors, explorer l'œuvre de Cartès, c'est pour vous se confronter à ce travail sur la langue qu'il avait appelé atonale. Expliquez-nous ça.
Mais oui, à l'image de la musique de Schoenberg qu'il écoutait assidûment dans les années 60 lorsqu'il écrivait « Être sans destin », le premier roman qu'il a publié en 75, et sur laquelle reviennent ses traducteurs chez Actes Sud, Natalia et Charles Aramba. C'est aussi comprendre avec et contre quels écrivains écrit. Alors dans ce numéro, il y a en particulier deux articles. L'un sur le rejet terrible de Cartès de Georges Samprin, hein, qui est écrit par Philippe Ménard. En revanche, avec Nietzsche, dont Guillaume Métayer révèle à quel point Cartès s'est nourri, tant du point de vue du style que de la pensée philosophique, dès l'écriture d'Être sans destin. Le style cartésien, c'est aussi l'exercice d'une mémoire personnelle, toute tournée vers la fiction, comme le monde français Payosca, qui articule le paradoxe d'une écriture créatrice, toute tournée vers l'auto-liquidation. C'est par la fiction que Cartès a cherché à sortir de la masse, à sortir du mécanisme de la société totalitaire. Et cette écriture, qui pour lui était un acte, lui a permis de redevenir un sujet, une personne. Et c'est un chemin qui est au cœur de l'analyse de notre collègue de Transylvanie, Jouja Chayem. Au bout de l'enquête, et c'est la note qui domine les derniers romans de Cartès, c'est la note que nous espérons avoir pu montrer dans ce numéro, c'est l'amour qui a constitué pour lui la plus grande révolte. Je le cite, « Il reste un mot, l'amour, pour lui, je commencerai volontiers quelque chose de nouveau. » Ce numéro est donc une invitation à lire et relire l'œuvre d'un immense écrivain, tel des lecteurs Sisyphe, car, comme le disait Cartès dans Le Refus avec Albert Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux.
Merci beaucoup Clara Royer et nous renvoyons donc les auditeurs aux lignes de risque numéro 53.
D'un
plaisir l'autre. Après le festin du ventre, la compagnie des auteurs s'engage à présent dans un chemin bien plus escarpé, celui de la sensualité et de la perversion, avec le romancier, photographe, peintre et dessinateur Romain Slocombe, mon invité de seconde partie. Il a réinterprété à sa façon les petites filles modèles de la comtesse, dont voici un extrait de l'original.
Madame de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, tantôt l'autre, cédait au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'un an que Madeleine, avait 8 ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles, elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire, à tout ce joyeux tapage, les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les 3 ou 4 jours. Mais la différence de leur goût n'empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir. Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons dès que Madeleine témoignait l'envie de se livrer à des amusements plus calmes. Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites sœurs, et leur maman les aimait tendrement. Toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir.
Bonjour Romain Slocombe.
Bonjour.
Vous vous intéressez à beaucoup de choses, je l'ai dit, à l'illustration, mais aussi à l'histoire du XXe siècle. Vous parlez de l'antisémitisme et de la Shoah dans un roman comme Monsieur le Commandant, paru chez Nil en 2011. Vous parlez du stalinisme et de l'espionnage soviétique dans le roman Avis à mon exécuteur, Robert Laffont, 2014. Vous avez même traduit ce qu'on peut considérer comme le grand roman de la guerre d'Algérie, Tombeau pour 500 000 soldats, de Pierre Guyotat, du français vers l'anglais, oui. Chez Creation Books à Londres en 2003. Donc on peut dire que vous évoluez entre Guyotat et la comtesse de Ségur. C'est quand même les deux extrêmes opposés.
Oui, sans compter le Japon et certaines perversités nippones que j'ai photographiées lors de mes nombreux séjours là-bas. Les comtesses de Ségur, c'est une demande des éditions Belfond qui font cette collection qui s'appelle Remake. Et un écrivain doit parler d'un livre qui l'aurait marqué, etc., et le revisiter, en fait. C'est-à-dire garder, par exemple, les personnages et leurs noms, et puis faire quelque chose où le souvenir de l'original ne soit pas perdu. On m'a demandé, il faut évidemment que ce soit quelque chose d'un peu ancien, libre de droit, etc. Donc, on m'avait demandé ce que moi, j'avais envie de faire. Et puis, tout à coup, j'ai eu cette idée. Oui, voilà, c'est ça, c'est les petites filles modèles. Ça m'intéresse d'en faire, entre guillemets, remake. Je me suis aperçu que c'était sans doute le second roman que j'avais lu, parce que j'ai appris à lire avec Babar d'abord.
Vous n'avez pas voulu faire un remake pervers de Babar?
On aurait pu envisager la chose, mais bon. Et puis on m'a donné Les Malheurs de Sophie dans une collection vraiment ancienne. Je ne sais pas où ma mère avait trouvé ça, parce que c'est le seul qui était vraiment dans cette espèce de rouge foncé de l'ancêtre de la Bibliothèque Rose, alors que le suivant, les petites filles modèles, je l'avais en Bibliothèque Rose. J'ai pas compris pourquoi, mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé avec les Malheurs de Sophie, et là j'ai eu assez peur, en fait, parce qu'il était accompagné d'illustrations d'époque qui étaient vraiment style gravure 19e. Sophie était assez moche, une petite brune un peu vilaine. En plus, il lui arrivait des choses assez morbides, rien qu'en illustration. Je me souviens, quand elle a les chevilles plongées dans la chaux vive, ça me faisait très très peur. plus encore que le texte. Et donc, j'aurais pas du tout envie de faire un remake des Malheurs de Sophie. En revanche, ma lecture suivante, c'est-à-dire Les Petites Filles Modèles, m'a justement soulagé par son calme. On était dans un univers de gentillesse, de féminité, on imaginait des petites robes toutes roses, etc. Bon, et puis ces relations entre ces deux sœurs, et puis Marguerite qui arrive suite quand même à un accident. Qui m'a beaucoup frappé, parce que là il y a également une violence, mais c'est pas, ça commence par un, autant Les Malheurs de Sophie commence par des scènes absolument horribles avec la poupée, on est en plein surréalisme. Là Les Petites Filles Modèles, c'est plutôt un accident de la vie courante, parce que justement Marie-Joséphine notait très très justement cet aspect réaliste du monde contemporain qui est raconté par la comtesse. Et là on a un accident de voiture, d'ailleurs une voiture tiré par trois chevaux de poste, donc pas une voiture automobile, mais hippomobile.
Mais voilà. Avec une voiture justement automobile.
Voilà, je le reprends parce que je l'ai décalé un peu l'histoire dans le temps, mais c'est un accident extrêmement violent. Le postillon, les roues de la voiture lui sont passées sur le corps et on ne sait pas du tout s'il est mort dans l'accident. Et puis la Madame de Rosbourg, elle est couverte de sang et Marguerite également, sauf que avec soulagement, on s'aperçoit que c'est le sang de sa maman seulement, et elle-même n'est pas blessée. Donc il y avait ce départ extrêmement violent, puis cette espèce de convalescence et cette amitié qui naît entre tout le monde qui m'avait frappé. Et puis l'aspect quand même assez trouble, on parlera plus tard des punitions, etc. Mais il y a surtout ce côté, cette relation entre Madame de Rosbourg et Madame de Fleurville qui est quand même assez étrange. Parce que ce sont deux femmes qui n'ont pas d'hommes. Capitaine de Rosbourg, commandant de Rosbourg est disparu. Bon, lui, il réapparaîtra. Mais enfin, ce sont des plus ou moins des veuves. Et visiblement, Madame de Fleurville tombe raide dingue amoureuse de Madame de Rosbourg et lui propose, c'est écrit dans le texte, j'invente rien, ma chère amie, si nous nous mettions en ménage, même si l'expression n'a peut-être pas exactement le même sens à l'époque, et Madame de Rosbourg, un peu inquiète, dit tout de même on pourrait jaser dans le canton, etc. Et Madame de Fleurville, qui est assez directe, dit non, pas du tout, vous inquiétez pas, etc. Donc évidemment, j'ai exagéré ce trait pour le point de départ de mon roman.
Donc il y a beaucoup d'intertextualité dans votre livre. Vous recopiez certains passages du roman original et puis vous convoquez un certain nombre de grands auteurs, à commencer par le Marquis de Sade.
Oui, parce que j'ai imaginé que bon, il fallait évidemment différencier un peu les deux mères, par exemple. Et dans le roman original, elles sont à peu près équivalentes. Et puis bon, elles font pas grand chose. On les voit en train de coudre dans leur coin pendant que les filles font quelquefois des petites bêtises. J'ai imaginé que Madame de Fleurville, en fait, était une mère moderne pour l'époque, et Madame de Rosbourg, une
même moderne pour aujourd'hui, je pense.
Oui, aussi, bien sûr. Mais et Madame de Rosbourg, elle est un petit peu plus, bien catholique, avec les névroses de l'époque. J'ai imaginé qu'elle était kleptomane. Elle porte un corset, etc. Parce que j'ai décalé l'histoire. Je voulais garder tout de même l'aspect un peu belle époque, être encore dans l'atmosphère du 19e siècle. Et tout à fait par hasard, j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes grands-parents paternels un livre un magazine qui s'appelait Touche à tout, et c'était le recueil de l'année 1909 de cette revue qui effectivement touchait à tout, c'est-à-dire qu'on avait le coin des poètes, les recettes de cuisine, un peu de politique, un peu de, et puis de la mode aussi, surtout la mode de l'époque. Et donc j'avais tout sur l'année 1909, donc je me suis dit, situons le roman à cette époque-là. Il y a la question du corset, porter un corset ou pas. Déjà, dans certaines écoles, on interdit aux petites filles de porter des corsets. Donc, Madame de Rosbourg est pour le corset. Madame de Fleurville est radicalement contre. Et elle laisse ses filles se balader dans la bibliothèque, prendre ce qu'elles veulent et lire donc le Marquis de Sade.
Donc, le Marquis de Sade, et puis aussi Thérèse, philosophe de Jean-Baptiste de Boyer, qui est un roman érotique du 18e, qu'on peut d'ailleurs lire dans la Pléiade, roman libertin du 18e siècle. Et alors là, c'est un roman dont l'une de vos jeunes héroïnes, Marguerite, doit recopier, comme punition, les 50 premières pages. C'est une drôle de punition parce que c'est un roman, pour le coup, qu'on ne met pas d'habitude dans les mains des jeunes filles.
Tout à fait. Alors ce roman qui, entre parenthèses, est absolument formidable, c'est un des plus beaux textes érotiques du XVIIIe siècle. On dit d'ailleurs qu'il avait été écrit par Diderot, enfin que Boyer d'Anglade aurait été un prête-nom en fait, mais c'est juste une théorie. Mais en tout cas, ça a la modernité et la force de Diderot. Et tout le début, justement, les 50 premières pages sont consacrées à la découverte par une très jeune enfant de la masturbation féminine. Donc j'ai évidemment imaginé que dans le fameux cabinet de pénitence, la punition, ou normalement dans l'histoire, dans
le cabinet de pénitence qui est la cave, en gros, où on enferme les enfants.
Oui, donc c'est une pièce très
Ils sont mal tenus.
Voilà, c'est très inquiétant. Il apparaît tout à coup dans des petites filles modèles, les petites filles modèles, suite à une dispute où Sophie est punie par Madame de Fleurville, qui tout à coup se révèle d'ailleurs très 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 sévère, alors que elle est pas comme ça d'habitude. Mais elle est vraiment furax. Et donc la pauvre Sophie est dans cette pièce où il y a justement un écritoire, une plume, de l'encre, des feuilles de papier, il faut recopier, il faut écrire. Et donc j'ai imaginé bien sûr que Madame de Fleurville opérait d'une punition extrêmement ambiguë, parce qu'en même temps elle doit la petite Marguerite, qui est très, très catholique, très prude, etc., bien élevée par sa maman, doit recopier ce texte où elle découvre qu'elle n'était pas la seule à faire ça avec son doigt pendant la nuit, et elle apprend plein de choses et elle est très troublée, et en plus on se demande pourquoi, est-ce que c'est une, quel est le sens de cette punition, est-ce que c'est pour lui apprendre quelque chose, est-ce qu'au contraire c'est pour la mettre dans les mains du diable en lui faisant apprendre ces choses-là.
Voilà. D'autant plus que la punition est ensuite comme exemplifié par la châtelaine qui descend à son tour dans cette cave pour lui montrer finalement comment on peut pratiquer à deux ce qui a été décrit dans les 50 premières pages de ce livre.
Tout à fait, parce que comme Marguerite ressemble beaucoup à sa maman Madame de Rosbourg, et que Madame de Fleurville est amoureuse de Madame de Rosbourg, elle voit en plus jeune en fait, elle reconnaît les traits de son amante dans la petite fille, donc on a une scène effectivement... Bon, c'est moi qui invente. Hein.
C'est mon roman. De votre roman, d'après
c'est pas
vous,
la comtesse
de cette scène.
Alors ça, j'en sais rien. Peut-être éventuellement. Non, je pense qu'elle aurait été choquée. Mais ce côté un peu dingue, justement, russe qu'elle avait, fait que bon, peut-être. On peut espérer que ça l'aurait fait sourire.
C'est dans ce jardin qu'autrefois, dans mon habit de joueur d'escrime, je venais souvent apprivoiser mes chats qui se dandinent. Je portais toujours sous mon drap n'importe quoi de la Martine. Je regardais monter au ciel les ballons. Se moquait bien de moi. Tu n'es pas connu, disait-elle. Tu n'as pas l'air d'un roi. Les petites filles méchantes, elles aimaient bien jouer avec moi. Elles avaient une façon cruelle de s'endormir entre mes bras.
Les petites filles modèles de William Scheller. Alors on peut dire, Romain Slocombe, que tout votre remake de Des petites filles modèles de la comtesse de Ségur tourne autour de cette question entre le pur et l'impur, parce que Marguerite, elle reste pure, Camille un petit peu moins, mais c'est la tension entre ce que signifie être pur et ce qui signifie ne pas l'être ou être souillé qui tient quand même une bonne partie de ce roman.
Oui, et souillure fréquemment par le sang en fait. L'autre idée que j'avais eue, j'étais très frappé qu'il y a un roman de anglais, enfin anglo-saxon, puisque son auteur Sheridan Le Fanu était irlandais, un roman qui a été écrit 10 ou 15 ans après les petites filles modèles et qui démarre exactement de la même manière, c'est-à-dire un accident de voiture tiré par des chevaux devant un château. Et dans le roman de, qui est un roman vampirique, Carmilla, une jeune fille évanouie est laissée justement au bon soin des occupants du château. Et dans le roman Carmilla, c'est le mâle en fait, puisqu'elle est descendante d'une vampire hongroise, c'est le mâle, enfin austro-hongroise, c'est le mâle qui pénètre dans le château. Et donc j'ai eu l'idée que ce soit le contraire en fait, c'est-à-dire que le mâle résidait dans le château et Marguerite et sa maman Madame de Rosbourg sont les oies blanches, si l'on peut dire, qui vont être accueillies à bras ouverts d'ailleurs dans ce château par des femmes extrêmement gentilles, mais qui représentent quand même le mâle. C'est une sorte de famille Adams, de Adams Family, puisque justement il y a cette ascendance de Styrie, donc de vampirique du côté de Madame de Fleurville. Et puis, qui justement, a une sorte de double ambiguïté, c'est-à-dire qu'en fait, le mâle, c'est également le modernisme, c'est-à-dire ce que je disais à propos de l'éducation des filles, des bibliothèques où on peut, les lectures sont libres.
Qu'on appelle l'enfer dans les bibliothèques.
Voilà. Et puis aussi, cette souillure également par la maladie, c'est-à-dire que bon, le tournant du 19e au 20e siècle, c'est toutes ces maladies féminines, l'hystérie, etc., la kleptomanie. Donc j'ai voulu faire un peu un catalogue aussi de, parce que ça c'est également ça qu'on voit dans la comtesse de Ségur, pour revenir un peu à elle quand même, c'est que on tombe souvent malade, et il y a la variole, il y a la rage, etc. Donc j'ai repris effectivement ces incidents, et puis la rage qui d'ailleurs est soignée d'une manière totalement aberrante dans les petits films modèles, puisque c'est avec de l'eau salée, etc. Bon, on est avant Pasteur, mais je me suis amusé évidemment à faire que Madame de Rosbourg soigne une des petites qui a été mordue par un chien en style comtesse de Ségur. Évidemment, elle se fait enguirlander par le médecin qui dit comment vous n'avez pas fait le traitement pastorien, etc. Et puis, bon, il y a effectivement les mutilations, c'est-à-dire que Marguerite, justement, pour expier toutes ces horreurs qu'elle sent qu'elle est en train de faire malgré elle, elle va commencer à se donner des coups de fourchette. Elle va répéter elle se punit en répétant évidemment les stigmates du Christ sur son corps.
Voilà, effectivement, il y a un sous-texte chrétien quand même la comtesse de Ségur, dans votre livre aussi probablement. D'ailleurs, elles ne cessent, vos petites héroïnes, d'évaluer la gravité de leur crime. Elles se demandent, parce qu'à un moment donné, elles tuent aussi le boucher.
Tout à fait, parce que une des choses qui m'avait intrigué et beaucoup frappé quand j'étais petit, c'est qu'il y avait... comme vous disiez, il y a des morts dans cet aspect réaliste de la comtesse Ségur, et notamment le boucher qui a sauvé les petites filles dans la forêt. Il meurt accidentellement un peu plus tard, alors qu'il venait justement apporter des écrevisses au château, et donc ça m'avait frappé, d'autant plus que dans une édition plus récente de la comtesse Ségur que m'avait prêté une amie, je vois que la mort de Hurel est escamotée. Ce chapitre a disparu. Il y a un chapitre de moins dans cette édition des petites filles modèles. Et peut-être parce qu'on considère ça un peu violent pour les enfants de maintenant. Et donc j'ai imaginé évidemment que cet homme que deux petites filles innocentes rencontrent un soir d'orage dans la forêt, évidemment, avait des intentions criminelles sur le corps de ces adolescentes.
Puisque... c'est ce que vous montrez dans votre livre, enfin ce que vous imaginez dans votre livre. Et elle se venge quand même de manière violente.
Voilà, donc après... bon,
et innocente à la fois.
C'est ça. Et puis c'est un peu de l'autodéfense, etc. Donc, et puis évidemment, ça va surcharger la confession, puisque Marguerite se confesse. Et donc la liste de ses péchés va en augmentant.
À quel point c'est un livre humoristique que le vôtre, à quel point c'est un livre qu'il faut lire au premier, deuxième, troisième degré?
Alors moi, c'est certainement pas au premier degré, puisque c'est quand même, bon, il y a beaucoup d'humour noir, mais dans ces personnages qui finalement devenaient vivants, ces adolescentes, j'avais l'impression de donner de reprendre les personnages de la comtesse un petit peu plus âgé, et puis de rentrer dans leur histoire, et aussi cette nostalgie finalement, parce que ce château où Marguerite et sa mère sont hébergées, c'est quelque part une espèce de merveilleuses vacances où tous les interdits sont transgressés l'un après l'autre jusqu'au drame final, et donc quelque part il y a une sorte de nostalgie, et également une certaine beauté que je voulais donner dans ces rapports lesbiens, donc donc entre Marguerite et Camille. Donc en ce sens-là, oui, j'écris également une histoire très romanesque au premier degré.
Merci beaucoup Romain Slocombe. Un petit peu de poésie après tant de perversion, les deux choses n'étant pas forcément incompatibles. Voici Jacques Bonafé.
Bonjour. Ossip Mandelstam, grand poète russe du XXe siècle, est l'objet de nombreuses traductions et dernièrement d'un roman biographique de Vénus Kourigata, Les derniers jours de Mandelstam. Respiration nouée, le firmament grouille de larves, et pas une seule étoile ne parle, mais au-dessus de nous, visible pour Dieu, la musique. Tremble la gare au chant des Aoénides, et de nouveau l'air que les sifflets des locomotives lacèrent coule avec le souffle des violons. C'est un extrait de Concert à la gare, traduit par Jean-Claude Schneider pour les éditions La Dogana. En 1930, Ossip Mandelstam trouve un exil rapide, rêvé, en Arménie. « Ah, je n'y vois plus rien, ma pauvre oreille est sourde. De tant de couleurs me restent seuls le minium et l'ocre rauque. Va savoir pourquoi je me pris à rêver des aubes d'Arménie. Allons à Erevan, me dis-je, où virevolte la mésange. Voir le boulanger au pétrin jouer à Colamaillard avec le pain, se courber puis retirer de l'âtre ses longues peaux de lavoche. » Ah, Erevan, Erevan, est-ce l'oiseau qui t'aurait dessiné, ou le lion comme un enfant des couleurs du plumier gribouillé? Erevan, Erevan, tu n'es pas une cité, mais une noisette grillée, et que j'aime tes ruelles Babylone tortueuses aux bouches grandes ouvertes. Moi j'ai mené une vie absurde, comme le mollah son Coran, au lieu de verser un sang brûlant, j'ai congelé le temps. Erevan, Erevan, je n'ai plus besoin de rien, et surtout pas de ton raisin frigorifié. Empire de pierre qui crie, Arménie, Arménie, montagne aux rauques échos d'appel aux armes, Arménie, Arménie, tu voles éternellement vers les trompettes d'argent de l'Asie, Arménie, Arménie, tu jettes à pleine poignée la monnaie perse du soleil, Arménie, Arménie. Ces poèmes sont les premiers de ce qu'on appelle nouveaux poèmes entre 1930 et 1934. Avant ce départ, depuis 5 ans, Ossip Mandelstam n'avait rien écrit. Tout dernier poème de Mandelstam, le 4 mai 1937 à Voronje, sur la terre vide clochant malgré elle d'une démarche irrégulière et douce. Elle va devançant un petit peu sa rapide compagne et l'ami plus âgé à peine. Ce qui l'entraîne est la légère entrave de cette infirmité qui vivifie, et l'on dirait que voudrait s'attarder dans sa démarche le soupçon lucide que cette journée de temps printanier nous est l'aïeul de la voûte du tombeau et que tout commence éternellement. Il est des femmes proches de la terre humide et chacun de leurs pas est un sanglot sourd. Leur vocation est d'escorter les morts et les premières d'accueillir les ressuscités. C'est un crime d'en exiger de la tendresse au-dessus de nos forces de nous en séparer. Ange d'aujourd'hui, demain vers du tombeau, après-demain, simple contour, à peine ce qui fut notre pas sera hors de portée. Les fleurs sont immortelles, le ciel d'un seul tenant, et ce qui adviendra, simple promesse. Traduction de Philippe Jacoté pour les éditions La Dogana.
Jacques Bonafé, lisez donc Ossip Mandelstam dans la compagnie des auteurs. Un grand merci à vous Marie-Joséphine Strich, ainsi qu'à vous Romain Slocombe.
Merci.
Votre
merci
roman, Romain Slocombe, Des petites filles modèles, est disponible chez Belfond. Quant à vous Marie-Joséphine Strich, votre ouvrage La cuisine modèle de la comtesse de Ségur est publié aux éditions Bartilla. Je signale également que vous avez consacré à la comtesse une biographie intitulée La comtesse de Ségur, un destin romanesque, c'est chez Via Romana. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Bruno Gagnère-Fontani. Et à la préparation, Didier Pinault, Corinne Amar, Anne-Vanessa Prévost, Eva Le Sceau. Cette semaine consacrée à la comtesse de Ségur s'achève donc, mais vous pouvez la réécouter et la podcaster sur notre site. Très bon après-midi à toutes et à tous.